Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs pour voyager dans le passé. C'est avec Frédéric Simotel cette semaine. Et puis notre globe-trotteur, toujours à la découverte des meilleures études publiées dans toutes les langues, dans le monde entier, Benaouda Abdel. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On démarre tout de suite avec nos auteurs. C'est l'un des secteurs qui a été le plus ébranlé par la crise sanitaire et l'un des secteurs qui se retrouve au cœur de toutes les mutations sociétales, technologiques, environnementales. Mutations qu'il doit à la fois intégrer et accompagné au même titre que la banque, parce que sans lui, comme sans la banque d'ailleurs, il ne peut y avoir de développement économique durable, à moins qu'on arrive à se passer de lui et que, qui sait, il disparaisse. Ce secteur, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'assurance. Pour nous accompagner dans les arcanes de ce secteur si complexe, deux invités, Olivier Jaillon, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Olivier, vous êtes le président de l'assureur, la compagnie d'assurance, vous y tenez, hein, Wacam.
Absolument.
Et vous publiez Patrimoine éphémère, c'est aux éditions Débat Public. Éric Mignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Plus Simple, une assurtech de courtage, et vous publiez vous aussi chez Débat Public, Ne tirez pas sur l'assurance. Éric Mignot, je commence avec vous. Rappelez-nous quand même, l'assurance, ça existe depuis quand et ça a été inventé par qui ?
Alors, on peut presque dire que c'est un des plus vieux métiers du monde, puisque c'était...
La liste est longue, hein, des candidats aux plus vieux métiers du monde.
Mais c'est vrai, mais ça en fait partie quand même, puisque, en fait, les premières traces de mécanismes assurantiels, c'est les âniers à Babylone, qui, pour en fait affronter le risque d'envoyer des caravanes traverser le désert, mutualiser leurs risques pour rendre ce risque acceptable. Donc ça a été inventé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs.
Et alors, j'ai découvert ça dans votre livre, l'assurance, le principe existe même dans la nature.
Ah oui,
c'est entre les espèces.
En fait, il y a un concept d'assurance naturelle qui fait que, par exemple, vous voyez les populations d'antilopes qui s'ajustent automatiquement en fonction du nombre maximal de lions qu'il y a sur une zone susceptible en fait de détruire l'espèce. Et donc, effectivement, il y a cette notion, ce concept d'assurance naturelle.
Alors, on était il y a très longtemps, on se projette aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit quoi ? On voit que la crise sanitaire a été finalement un révélateur qui a montré que les compagnies d'assurance, eh bien, alors qu'elles étaient manifestement censées servir les entrepreneurs, sont devenues d'espèces d'énormes industries à fabriquer de la complexité et qu'elles se sont éloignées de leurs clients. Parce que effectivement, je comprends bien qu'on peut pas assurer un risque qui se réalise pour tout le monde. C'était ça la réponse des assureurs face à la pandémie. Mais ça n'empêche que les assureurs soient incapables de répondre à ce point au stress, aux angoisses de leurs clients, ça pose quand même question.
Oui, alors, il faut pas se tromper de diagnostic et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est un peu le sens de ne tirer pas sur l'assurance. Le diagnostic, c'est quoi ? C'est que, en fait, les clients ne comprennent plus à quoi ça sert.
Bah oui.
Y a un truc de dingue, c'est... quand on fait des petits sondages sur les réseaux sociaux, notamment sur est-ce que vous vous assureriez si l'assurance auto était pas obligatoire, vous avez 40% des gens qui disent « bah non, moi je m'assurerais pas ». Quitte à se retrouver responsable d'un accident et devoir payer des millions d'euros toute sa vie, on dit bah non, je comprends pas à quoi ça sert. Et donc c'est cette déconnexion entre le sens de l'assurance pour les clients et les assureurs qui, à mon avis, est au cœur du problème.
Alors,
aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Ma thèse ou théorie dans le bouquin, c'est de dire que en fait l'assurance est toujours tiraillée entre l'individu et la collectivité. Et au fur et à mesure que finalement, au début, c'était facile, c'était entre entrepreneurs, on comprenait parfaitement comment fonctionnait la solidarité. S'il y a un pépin qui arrive à l'un d'entre nous, ben on est solidaire entre nous et on va aider cette personne à affronter la situation. Mais quand les compagnies sont devenues énormes et qu'elles se focalisent uniquement uniquement sur le collectif, la gestion des grandes masses, et que la seule relation qui reste avec le client, c'est de lui envoyer une facture par an, alors bah finalement cette déconnexion elle opère et on a un client d'un côté, un assureur de l'autre qui arrive plus à se comprendre quoi.
Et encore une fois, historiquement, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que le monde est devenu aussi de plus en plus complexe et que pour répondre à la complexité du monde, bah il fallait des assureurs de plus en plus des assurances de plus en plus complexes
Aussi. Bah oui, de plus en plus complexes, de plus en plus grosses surtout et qui gèrent des masses de plus en plus importantes et qui sont de plus en plus centrales pour l'économie en général. Elles ont un rôle ces compagnies d'assurance qui est absolument considérable pour l'économie. Mais si je fais un méga zoom sur l'histoire de l'assurance, d'abord c'est une communauté qui se gère toute seule. Ensuite, on passe par des banquiers, c'est les prêts à la grosse aventure chez les Grecs et après
ça,
chez
les Romains. Ça, c'est la mutation du XIIIe siècle, c'est ça?
Alors non, c'est encore avant, puisque c'est quasiment à l'époque de Jésus-Christ, les Grecs qui, effectivement, montent ce système de prêts à la grosse aventure. Et là, c'est le banquier qui dit... qui dit, je prête de l'argent pour financer, en fait, le bateau. Et si jamais le bateau il revient pas, vous me donnez, ils appelaient ça une surprime pour les intérêts, et sinon vous avez pas à me rembourser le prêt. Et après le banquier, c'est devenu encore plus compliqué. On a dit on va créer un truc, ça s'appelle la compagnie d'assurance, et ça apparaît au Moyen Âge. Moyen Âge, 1424, on a la première compagnie d'assurance qui est créée à Gênes, compagnie d'assurance maritime. Et puis après ça grossit, et jusqu'à devenir aujourd'hui des plus grosses entreprises.
Et la bureaucratisation, la complexité administrative, c'est surtout, rappelons-le, l'apanage des énormes organisations et pas seulement de l'État. Vous dites aujourd'hui l'enjeu majeur, c'est la reconnexion avec les clients et avec leurs aspirations.
Effectivement, c'est devenu l'assurance, c'est devenu un métier de technicien. Si je prends une toute petite image, il y a 15 ans, quand je voulais acheter un ordinateur, j'allais dans un magasin d'ordinateurs, j'entrais dans le magasin et en disant mon besoin, c'est de faire un peu de traitement de texte. Et là, j'ai le demandeur qui me regarde, qui me dit « Non, je m'en fous, qu'est-ce qu'il vous faut comme vitesse de processeur et comme taille de mémoire vive ?» Un langage de technicien. Et donc, incompréhension, je me dis « je comprends rien à ce qu'il me dit ». Inversement, il se dit « il sait pas ce qu'il veut ». Et l'assurance, c'est ça aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est « Monsieur Le Chypre, il vous faut un petit peu de responsabilité civile professionnelle matinée de RC Exploitation, et il vous en faut pour 100 000 euros ». Et vous dites, moi je veux être tranquille.
Si j'ai un accident.
Et donc, en fait, cette confrontation entre les techniciens d'un côté et le public de l'autre, c'est ça qui marche plus. Et donc, effectivement, ce que je dis, c'est que il y a en fait un muscle faible chez les assureurs qui est la relation client d'un côté et la technologie de l'autre.
Alors, Olivier Jaillon, est-ce que si on repart de cette pandémie, est-ce qu'on peut dire que quelque part ça a été une sorte d'électrochoc pour le secteur de l'assurance? Est-ce que ça a été finalement un mal pour un bien presque?
Alors ça nous a mis au centre du jeu en tout cas, parce qu'au moment de cette pandémie, on voit avec les exemples des pertes d'exploitation pour les restaurateurs, qui a été l'exemple où on a été cloué au pilori, on va dire. Je dirais de manière assez normale, parce que comme le dit Eric, il y a encore une déconnexion entre les clients et les assureurs qui savent pas bien parler entre eux et s'exprimer. Mais ça nous a remis au centre du jeu, parce que je pense que ça a montré que le secteur de l'assurance est un stabilisateur économique et social. C'est-à-dire que il y a des risques. Certains qu'on a prévus, certains qu'on avait moins prévus. La pandémie était un risque qui avait été prévu par quelques grands prédicateurs, on va dire, mais qui était mal apprécié par les assureurs. Et on s'est rendu compte de la pertinence de notre rôle au centre de la société.
Mais vous dites, il n'y a pas de développement économique possible s'il n'y a pas, comme s'il n'y a pas d'ailleurs de système financier et bancaire performant. Il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas de système d'assurance performant.
Absolument. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de l'assurance, Eric l'a très bien fait, mais on se rend compte quand même que quand on analyse les pays émergents, on va dire, les pays qui ont le mieux fonctionné en termes de courbe d'émergence économiquement sont ceux qui avaient une structure assurantielle développée. Pourquoi ? Parce que quand on passe d'une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'on a juste assez d'argent pour se nourrir, à une économie de... On commence à épargner, on commence à constituer du patrimoine, on commence à s'acheter une voiture, on commence à s'acheter un appartement. Si on n'a pas des compagnies d'assurance structurées pour les couvrir et qu'il y a un événement ou climatique ou un, on perd son patrimoine et on est mis à mal. Et aujourd'hui, ce que nous on dit, c'est qu'en plus il y a de plus en plus de nouveaux usages.
Voilà.
On passe de plus en plus de la possession à l'usage, c'est-à-dire que on voit bien que les nouvelles générations, pour elles, c'est pas très statutaire de s'acheter sa voiture, c'est pas très statutaire de s'acheter sa
résidence. C'est la logique de l'usage et pas le et pas la logique de la propriété.
Exactement. Donc et de l'usage fractionné en plus, parce que on peut prendre l'exemple des trottinettes, qui est l'exemple que tout le monde a adoré parce qu'on s'est retrouvé tout d'un coup submergé avec ces engins dans nos rues. Mais on s'est trouvé submergé avec ces engins dans nos rues où le législateur avait même pas eu le temps de définir le cadre législatif. Alors, si on rentre dans les mots techniques, on savait même pas si c'était de la RC circulation, de la RC exploitation. Si nous, les assureurs, on n'est pas là pour
la
couvrir...
RC, c'est la responsabilité civile.
Pardon ?
C'est la responsabilité civile, la RC ?
Oui, absolument. Ouais. Vous avez raison. J'utilise des mots techniques. Vous voyez, je suis assureur. Je suis pas encore complètement éduqué. Mais il faut qu'on trouve une protection qui s'embarque.
Ouais.
Et c'est nous, ça. Qui s'embarque à l'intérieur du produit et du service.
La notion majeure que justement sur laquelle vous insistez, quand on dit un premier grand défi pour les années à venir, donc se reconnecter avec le client, et vous vous dites le grand défi c'est de s'adapter finalement à ce que vous appelez vous le patrimoine éphémère.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on était dans une société du patrimoine tangible et quasi éternel à la société du patrimoine éphémère, et vous dites pour l'assurance ça change tout.
Ça change tout parce que quand vous louez une trottinette pour 8 minutes ou que vous louez un Airbnb pour 2 jours, il est difficile d'aller chez un agent d'assurance et de contracter un contrat annuel.
Exactement.
Il faut que la protection qui soit liée à l'utilisation, elle soit directement embarquée à l'intérieur de ce produit et de ce service. Donc, et ça change tout chez les assureurs. Parce qu'on n'a pas de structure, ni au niveau du digital, ni au niveau de l'organisation de la société, pour pouvoir donner ce service de manière efficace. Donc on est obligé de se transformer. C'est évident. Pour pouvoir, si on n'avait pas trouvé de solution pour garantir les trottinettes dans les rues, elles auraient disparu. Et donc ce nouvel usage aurait disparu.
Ouais.
Et donc nous, on s'est adapté pour pouvoir donner une protection à ces gens qui utilisent ces engins de la micro-mobilité. Et si on s'était pas adapté, bah, l'usage aurait tout simplement disparu.
Alors, il y a aussi dans ces nouveaux défis une nouvelle donne qui est la nouvelle donne technologique, qui est la digitalisation qui est inclus dans la digitalisation, mais c'est l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Est-ce que c'est juste un outil nouveau pour le secteur de l'assurance, ou bien est-ce que c'est carrément un saut quantique pour le secteur ?
Alors, c'est un saut quantique, mais obligatoire. Parce que si on reprend cet exemple de louer une trottinette pour 8 minutes ou de prendre un VTC pour 9 minutes, pour garantir ce contrat éphémère, si la relation elle est pas complètement digitalisée, si on n'est pas plugué à l'intérieur de l'appli du VTC, il est impossible, les coûts de transaction vont être trop élevés. Donc la digitalisation de tout le process est obligatoire. Et quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est un sujet très intéressant. Eric reprenait des grands principes fondamentaux de l'assurance. Alors il y a un gros mot dans l'assurance, hein, c'est le mot d'actuaire. Donc l'actuaire, c'est quelqu'un qui prend les données du passé, et grâce aux données du passé, il essaye de prédire l'avenir.
C'est le maître du risque.
C'est le maître du risque.
Ouais.
Et le maître
ça
du
m'a
prix.
Toujours fasciné comme métier.
C'est fascinant.
Ah oui.
Ouais, mais comment faites-vous quand vous n'avez pas de data du passé ?
Ouais.
Bah justement, sur ces nouveaux risques comme les trottinettes, on ne savait pas, on ne connaissait pas.
Ouais.
Donc, on est obligé de mettre en place des outils d'intelligence artificielle qui apprennent au fur et à mesure le risque sans le connaître parfaitement au début. Et ça, c'est une révolution et c'est un vrai saut quantique dans l'esprit des assureurs.
Alors, messieurs, moi je suis tiraillé parce que d'un côté, je me dis, quand je vous écoute, on va avoir besoin plus que jamais de l'assurance. Et en même temps, quand on regarde, par exemple, cette idée fondamentale qui est la mutualisation des risques. C'est-à-dire, en gros, on accepte à tous ensemble de cotiser un petit peu pour indemniser les quelques-uns qui verront se réaliser le risque. Mais à l'heure de l'individualisation totale des data, c'est-à-dire que quand on va tout savoir sur chacun et être capable de mesurer précisément son risque, est-ce que ça a encore un sens de parler d'assurance ? L'un d'entre vous dit dans son livre « On est dans une société dans laquelle la solidarité collective disparaît ». On se dit, franchement, entre ces tendances sociales et sociétales et ces tendances technologiques, mais est-ce qu'on va encore avoir besoin de l'assurance ?
Alors, moi, je suis convaincu que oui, on aura besoin de l'assurance. Après, effectivement, où est-ce qu'on va mettre le balancier ? C'est-à-dire que on a l'individu d'un côté, on a la collectivité de l'autre. Ce que j'explique, c'est qu'à mon avis, le balancier chez les assureurs, elle est trop loin du côté de la collectivité. On a oublié l'individu.
Ouais.
Il faut qu'on revienne du côté de l'individu. Si on va trop loin du côté de l'individu, il n'y a plus d'assurance. Parce qu'effectivement, la mutualisation...
Bah oui.
Ce que tout le monde dit depuis les statuts, par exemple, de la reine Elisabeth Ier qui définissait l'assurance, elle disait pour que l'infortune pèse légèrement sur beaucoup plutôt ouais. que beaucoup sur peu. Vraiment, cette mécanique de solidarité, elle est au cœur du jeu, elle est au cœur de la société. Quand... au Moyen-Âge, vous aviez les paysans qui se regroupaient autour du château pour pouvoir se réfugier dans le château. On était déjà dans des mécanismes d'assurance. Donc, c'est quelque chose qui est consubstantiel de la vie en société et de l'être humain.
Oui, mais Éric Mignot, comment on fait pour aller, en gros, vers de l'individualisation sur mesure? En gros, comment on fait pour industrialiser, parce que ça va être ça le défi,
ouais.
comment on va faire pour industrialiser le sur mesure?
Alors c'est la technologie qui va être au cœur du dispositif, c'est-à-dire pouvoir comprendre instantanément quel est votre besoin, quelles sont les bonnes recommandations à vous faire, de telle sorte que vous compreniez pourquoi vous assurez, ce qui est quand même un peu le cœur du débat et du sujet aujourd'hui. Donc c'est utiliser la technologie et le marketing, la connaissance client, pour que ça soit très clair pour vous de à quoi ça me sert finalement l'assurance, et en même temps construire des mutualités qui permettent de dire ok, si j'ai un pépin un LEA qui me fout droit, je peux compter finalement sur la communauté pour passer le cap.
Olivier Jaillon, comment on fait pour relever ce défi de l'individualisation extrême?
Je crois qu'il ne faut pas confondre la personnalisation et l'individualisme forcené.
Ouais.
C'est-à-dire que la personnalisation, c'est comprendre le besoin du client. C'est comprendre quelle est sa vie, comprendre quel est son appétit au risque. Parce que ça, on n'essaye pas de comprendre aujourd'hui, les assureurs n'essayent pas de comprendre quel est l'appétit au risque. Peut-être que sur votre voiture, votre franchise, vous êtes prêt à prendre tous les petits sinistres à votre charge et n'être assuré que pour les gros.
Ouais.
Pareil pour votre santé. Et chacun a une relation au risque qui est différente. Donc moi, je crois que la personnalisation, elle passe par la définition claire et fine de l'appétit au risque de chaque individu. Par contre, le groupe ne doit pas être trop petit, parce que si le groupe est trop petit, il n'y a plus de solidarité et il n'y a effectivement plus de mutualisation.
Donc... Oui, mais ça change quoi pour les assureurs? C'est-à-dire que vous voyez bien le risque, c'est que pour ne pas perdre d'argent, on va vers des schémas qu'on a vus pour le moment qu'en Chine ou dans des séries de science-fiction comme Black Mirror, où grosso modo on va vous dicter totalement votre comportement pour que on accepte encore de vous assurer. C'est-à-dire que vous voulez être assuré sur la santé, attendez, on va demander d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer. On peut vite basculer du scénario de la protection idéale au scénario catastrophique de la privation de liberté, etc.
Alors, je crois que vous soulevez un point extrêmement intéressant. Je crois qu'il y a... Alors, il faut parler un peu géopolitique.
Oui, Jaillon.
Je
dis que c'est vous qui parlez, parce
ah,
que...
pardon.
Pour nos auditeurs. Et
pardon. Voilà. Au niveau géopolitique, les plaques sont très différentes entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Nous, on a fait un choix géopolitique qui est la protection des données, qui est RGPD. Et on voit bien que, de toute façon, on ne serait absolument pas capable, avec ce cadre législatif, de capturer assez de data pour faire ce dont vous parlez. Les Asiatiques sont capables de le faire, et d'ailleurs, les assureurs les plus technologiquement avancés en Asie ne viennent pas s'aventurer en Europe ni aux États-Unis, car ils sont dans l'incapacité de capturer assez de data, toutes celles que vous venez de nommer, sur les réseaux sociaux, ouais. sur les habitudes, sur les recherches, sur les moteurs de recherche, etc., qui permettent un profiling extrêmement précis. Aujourd'hui, notre législation, et moi je trouve que c'est très bien, ne permet pas de le faire, et finalement est un rempart à l'ultra-personnalisation qui détruirait le principe même assurantiel. Et on voit qu'aux États-Unis, les États les plus progressifs, on peut prendre la Californie, se sont plutôt inspirés de RGPD européen que suivre le modèle asiatique. Donc je pense qu'on a un cadre législatif qui nous protège aussi contre cette possibilité qui détruirait le principe de mutualisation.
Éric Mignot.
Moi, je pense que l'assurance, c'est quasiment un choix culturel, politique. L'évolution de l'assurance dans le temps, ça a toujours mêlé des trucs qui sont à la frontière de la religion, de la politique, de la culture. On parle de la mort, on parle des accidents, on parle de l'argent, on parle de tout un tas de choses qui sont très fortement connotées. Et donc, du coup, moi, je suis persuadé que, finalement, cette évolution, ça sera, et je rejoins totalement Olivier là-dessus, ça sera un choix... politique, culturelle, de société, de comment finalement on veut que la solidarité fonctionne
donc,
entre nous.
Il y a des pays qui accepteront quasiment une forme de notation sociale.
Oui.
Et donc,
oui, sans doute.
Qui ne l'accepteront pas.
Sans doute.
Alors, au-delà de ça, quels sont les nouveaux risques que le secteur de l'assurance va devoir couvrir? Alors, je parle, il y a des risques climatiques, on l'a vu, les pandémies, voilà. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui vont devoir être pris en compte par les assureurs, Éric Mignot?
Il y en a un, mais on sait tous qu'il y a un tsunami qui est en train de nous arriver dessus, qui est le risque cyber. Et si on illustre, demain sans doute, dans pas très longtemps, le risque que votre appartement prenne feu, il va disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il y aura tellement de capteurs, etc., que ben, finalement, plus besoin de s'assurer contre le feu. Par contre, si le dispositif qui permet que ça n'arrive pas, lui, est hacké ou a un problème, là, vous allez avoir, en fait, sur ces risques informatiques, en fait, une concentration de risques qui va être phénoménale. Et donc, tout ce qui est lié au risque informatique, on sait que c'est un tsunami de risques qui est en train de nous arriver dessus.
Olivier Jaillon, quels sont les risques de demain?
Alors, je partage avec Eric le fait que le prochain risque sériel, comme on l'appelle, comme la pandémie, où tout le monde est touché, comme vous le disiez, c'est probablement le risque cyber. Ça, c'est clair. Après, moi, je pense que si on veut regarder, on peut pas prédire tous les risques les nouveaux risques qui vont émerger. C'est pour ça que nous, les assureurs, on doit s'organiser de manière agile pour être capable de les absorber de manière rapide et efficace. Par contre, ce qu'on peut regarder, ce qui est intéressant, c'est pour ça que moi j'ai appelé le bouquin le patrimoine éphémère, c'est qu'il y a de plus en plus d'objets qui sont en possession qui vont passer vers l'usage.
Ouais.
Et quand on passe d'un objet qu'on détient, bah, ça représente un risque. Et quand ça devient un usage, le risque est modifié. Donc tout ce qui peut passer de la possession à l'usage vont créer des nouveaux risques.
Mais alors on assure qui? On assure l'objet? On assure la personne qui utilise l'objet?
La très bonne question, si vous prenez l'exemple de la voiture autonome, qui est un grand sujet quasi philosophique assurantiel, qui va être responsable d'un accident? Est-ce que ça va être le producteur de la voiture? Est-ce que ça va être le producteur du logiciel qui pilote la voiture? Est-ce que ça va être quelqu'un dans son environnement? Est-ce que ça va être la personne qui va être à l'intérieur, parce qu'elle aura toujours des facultés évidemment de rattraper le véhicule? Donc là, on se retrouve dans un schéma où la recherche du responsable va devenir de plus en plus compliquée. Et c'est là où notre métier va devenir extrêmement intéressant et challenging, parce qu'on va devoir se réinventer complètement en passant, encore une fois, de la possession à l'usage.
Mais alors, Éric Mignot, on en est où de cette réinvention? Comment ça se manifeste pour le moment? Est-ce que l'avenir est encore, comme dans beaucoup d'autres secteurs, d'ailleurs aux énormes mastodontes, ou bien est-ce que l'avenir, il est aux plus petites sociétés, plus agiles?
Bah, on est totalement convaincu que, effectivement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit apparaître autant de start-up, d'insurtech. Il y a à peu près 200 insurtech, rien qu'en France, qui ont été créés. Donc, on voit monter la vague de la transformation de l'industrie. Au début, on sent, quand j'ai créé Plus Simple, que les assureurs traditionnels nous regardaient avec un œil un peu amusé, un peu de mépris. Et petit à petit, au fur et à mesure, on grossit. On s'aperçoit que l'attention, ce qu'on dit, ce qu'on raconte, et le nombre de témoignages que j'ai sur Ne tirez pas sur l'assurance, qui viennent des assureurs en me disant, ouais, tu poses quand même les bonnes questions, ou t'évoques des sujets qui sont des sujets importants, on voit que la prise de conscience est en train d'arriver. Mon pari, c'est que ça va prendre une dizaine d'années, c'est ce qui est extrêmement rapide, pour que le secteur se transforme en profondeur.
Olivier Jaillon, ça ressemblera à quoi un contrat d'assurance demain?
Alors moi, j'ai beaucoup de mal à mettre un timing, une durée sur tout ça, parce que on voit qu'il y a des phénomènes d'accélération absolument colossales. Si on prend encore une fois les appartements en partage ou les VTC, on voit que ça n'a pas existé, puis tout d'un coup, en 2 ans, ça a révolutionné la planète. Donc c'est difficile de donner un timing. Alors à quoi va rassembler le contrat d'assurance de demain? Pour moi, le contrat d'assurance de demain, il va être complètement embarqué, on le verra plus, il va disparaître. L'assurance ne va pas disparaître, mais le contrat, le côté contractuel de souscrire un contrat, pour moi, va complètement disparaître, parce qu'en fait, quand vous utiliserez, encore une fois, une voiture, un appartement, une trottinette, un vélo, etc., automatiquement, à l'usage, l'assurance sera embarquée et vous n'irez pas y penser. Quand on regarde les nouvelles générations, en fait, ce qu'elles veulent, c'est pas être remboursées d'un sinistre. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir continuer à utiliser cet usage. Donc finalement, si le vélo est cassé, elles veulent juste un autre vélo. Et tout le processus derrière assurantiel de déclaration d'un sinistre, de paiement de ce sinistre, de remboursement, ils veulent pas le voir. Donc le seul moyen que ça se passe, c'est que les deux soient imbriqués l'un dans l'autre et que l'assurance embarquée, pour moi, se développe à une vitesse accélérée.
Pour conclure, Éric Mignot, mais donc ça veut dire que c'est une assurance totalement automatisée, il n'y a plus de contact humain entre l'assuré et son assureur.
Alors, je suis convaincu aussi que l'humain... En fait, aujourd'hui, dans l'assurance, vous avez des centaines de milliers d'humains qui passent leur journée à faire des trucs à très faible valeur ajoutée. Et du coup, consacrent pas assez de temps à écouter et à interagir avec leurs clients. Donc moi, je suis persuadé que dans l'assurance de demain... En fait, les humains feront de l'humain, c'est-à-dire de l'empathie, de la relation avec les clients, et que la technologie sera là pour prendre en charge tout l'aspect fastidieux de l'assurance et réduire la complexité pour le client.
Merci messieurs, je rappelle vos livres Olivier Jaillon, Patrimoine éphémère, c'est aux éditions Débat Public. Ne tirez pas sur l'assurance, c'est l'ouvrage d'Éric Mignot et c'est aussi aux éditions Débat Public. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaoud Abdelhaim, notre globetrotteur. Aujourd'hui, c'est Frédéric Simotel qui nous fera voyager dans le temps au pays des couleurs. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, l'éditorialiste et le grand critique d'alternatives économiques. Et Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et lui qui critique régulièrement et depuis très longtemps pour la Société d'économie politique. On commence avec le choix de Christian, qui est le livre d'Ali Laïdi, Les batailles du commerce mondial, c'est au PUF.
Alors en fait, on connaît bien Ali Laïdi, c'est un spécialiste de la guerre économique. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dès le début, c'est que l'auteur nous dit la guerre économique, mais qu'est-ce que c'est ? Parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc il nous dit, Ali Laïdi, la guerre économique, c'est l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour conquérir ou préserver un marché. Et là, au moins, c'est clair. On est dans l'économie de marché, il y a des moyens illégaux qui peuvent être utilisés, des loyaux qui peuvent être utilisés. Il faut essayer de les penser, parce que ça fait partie de la compréhension du capitalisme contemporain. Est-ce que ça fait partie de la compréhension du capitalisme libéral ? Non, nous dit Ali Laïdi. Les guerres économiques, il y en a eu avant le libéralisme. C'est pas un enfant, ces comportements déloyaux sur les marchés, c'est pas un enfant du libéralisme. Il y en a toujours eu. Malheureusement, c'est assez mal compris. Pourtant, il y a plein d'exemples historiques dans l'histoire. Enfin, il y a plein d'exemples dans l'histoire. Ali Laïdi nous en rappelle un ou deux, mais il va pas plus loin parce qu'on avait déjà débattu avec Jean-Marc de son livre précédent, qui est un gros pavé qui nous est l'histoire de la guerre économique. Plus intéressant, là, il nous dit, il y a aussi une histoire des idées autour du concept de guerre économique. En fait, il remonte à la Première Guerre mondiale. On pense la guerre économique entre États, la guerre économique comme l'utilisation déloyale de moyens économiques pour se battre, vraiment se battre au moment de la Première Guerre mondiale. Ça va continuer après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la guerre froide, puis les acteurs privés aussi vont se mettre à la guerre économique avec la définition qui nous en est donnée. Malheureusement, même si c'est une des caractéristiques du fonctionnement de l'économie depuis toujours et aussi du capitalisme contemporain, c'est très mal étudié. Et pour plusieurs raisons, nous dit-il. En fait, la guerre économique, ça touche quand même à la stratégie d'entreprise, ça touche aux relations économiques mondiales. C'est plutôt les économistes qui devraient s'y intéresser. Or, la déloyauté, les illégalismes chez les économistes, c'est pas vraiment le truc. En plus, il faut certes faire de l'économie, de la stratégie d'entreprise, un peu de psychologie, un peu d'histoire, un peu de droit, un peu de géographie. Donc, faut être pluridisciplinaire pour s'intéresser à cette matière. Or, la pluridisciplinarité en France, c'est franchement pas terrible. C'est pas très bien accepté. Puis il nous dit, la guerre économique, c'est pas seulement des modèles et on peut pas la comprendre en lisant des bouquins. Il faut aller rencontrer les acteurs de terrain, leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement, comment vous faites. Et c'est ce qu'il fait, lui, et il nous en redonne une petite partie. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de nous dire, attention à ce point mort de l'analyse du capitalisme contemporain, parce que il faut absolument y aller, et y aller de manière pluridisciplinaire si on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai deux petites critiques pour terminer. Ali Laïdi nous dit « Moi, j'aime bien utiliser Michel Foucault pour comprendre. » Il veut rentrer, il nous fait rentrer dans l'arrière-cuisine de sa pensée. Mais bon, des gens qui utilisent Michel Foucault, il y en a plein. Je sais pas si la lecture d'Ali Laïdi est particulièrement intelligente par rapport à d'autres de Michel Foucault. Ouais. Moi, ça m'intéresse moins de savoir qu'il utilise Michel Foucault que qu'est-ce qu'il en fait. Est-ce qu'il arrive à nous donner une explication originale, différente. Bon, il a son approche que je trouve pertinente, mais je ne sais pas si c'est à partir de Michel Foucault ou à partir d'autres auteurs qu'on peut arriver là. Puis la deuxième critique que je ferais, c'est qu'à un moment donné, alors que la définition est très clairement posée dès le début, utilisation de moyens déloyaux illégaux, à un moment donné, c'est souvent dans le livre, on glisse de l'analyse de ces moyens illégaux à l'analyse des rapports de force économiques dans le monde.
Ah oui.
Et Ali Laïdi nous dit, parce qu'on ne fait pas le premier, on ne fait pas le deuxième. Or, alors que je sais très bien, il connaît Susan Strange, il connaît tous ces auteurs qu'on appelle de la discipline d'économie politique internationale qui, depuis le début des années 70, ça fait 50 ans qu'ils produisent de la littérature, économie politique internationale, c'est une discipline qui consiste à dire comment est-ce qu'on peut analyser les rapports de pouvoir économique dans le monde, entre les États et les acteurs privés, entre acteurs privés. Donc on a 50 ans de littérature. Il est passé à côté, je trouve, là, je ne le suis pas, quand il nous dit on n'analyse pas les rapports de force dans le monde économique, on le fait, mais au moins, c'est un livre qui nous pointe sur l'idée que la guerre économique, c'est un sujet sérieux et il faut s'y attacher.
Jean-Marc Daniel.
Moi, j'ai été très déçu par ce livre. C'est très décousu. Je regrette que ce ne soit pas Christian qui l'ait écrit, parce que manifestement, il avait des idées assez claires.
Et vous vous rendez compte, le gain de cette émission. Voilà, vous n'avez pas lu le livre en 5 minutes, Christian. Vous en a dit plus que ce qu'il y a.
Ah oui, parce qu'alors d'abord, Christian parle de Michel Foucault à la toute fin de son exposé. C'est censé être le centre du livre, c'est même dans le sous-titre du livre. C'est totalement artificiel. On part dans des digressions qui sont très éloignées de ce qui est censé être le centre du livre. On finit par avoir une critique et une analyse de la pensée de Boulainvilliers sur l'analyse de les origines de la noblesse en France à l'époque des Capétiens. Alors on se dit, non mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Le résultat, c'est que cette notion de guerre économique, qui est effectivement bien définie comme étant la déloyauté, l'illégalité, la violence, débouche en réalité sur une apologie du protectionnisme dans les parties qui sont un peu cohérente et un peu compréhensible, et sur un étalage d'effectivement d'une forme d'érudition autour de Michel Foucault qui est à la fois à mon avis à côté du propos initial de l'auteur et assez peu, donc Christian l'a dit, je suis pas assez fort sur Michel Foucault pour savoir si c'est pertinent, moi non plus, mais je sens que ce n'est pas pertinent.
Bon. Voilà, vous l'avez, cette intuition.
Et dans cette guerre économique, il n'y a pas d'armistice, parce que le marché ne fait pas de pause. Je trouve que c'est une belle formule de l'auteur.
Le marché ne fait pas de pause.
C'est une belle formule de l'auteur, je trouve.
Alors, Jean-Marc Daniel, je vous avoue que je ne vous attendais pas au premier rang des défilés, des cortèges de manifestants, côte à côte avec Jean-Claude Mailly, puisque c'est le livre que vous avez choisi de défendre aujourd'hui, Manif et chuchotement, c'est publié chez Flammarion, et c'est donc Jean-Claude Mailly qui l'a écrit, qui nous raconte finalement ces années de syndicalisme.
Écoutez, pour une fois que je trouve quelqu'un qui déteste autant les communistes que moi, j'allais pas passer à côté.
J'en étais sûr. Pourquoi il avait choisi, et quand j'ai lu j'ai compris.
C'est pas vrai.
J'allais pas passer à côté de ce livre. D'accord. Alors, Jean-Claude Mailly, d'abord, le style est beaucoup plus simple que celui du livre précédent, c'est-à-dire, c'est un français. Alors, et beaucoup plus simple et beaucoup plus direct que les livres de témoignages dont on a pu parler récemment, comme celui de Bruno Le Maire ou de Arnaud Montebourg. Donc il raconte sa vie. En fait, le livre a trois parties. Une première partie où il raconte vraiment ses origines, son implication dans le destin de Force ouvrière, qui est une implication familiale. Son arrière-grand-père était déjà un anticommuniste fervent qui dénonçait la tartufferie, l'hypocrisie des gens qui avaient collaboré entre 1939 et 1941 et qui après jouaient le rôle du parti des fusillés et des grands résistants. Donc il est dans ce milieu personnel là, des mineurs qui sont des mineurs de fond dans la région de Lens. Et lui-même, il devient très vite permanent syndical de Force ouvrière, et donc il raconte un peu la vie interne, les combats, avec des anecdotes, ses questionnements, ses interrogations, ses angoisses. Ensuite, il y a un chapitre qui est alors assez violent, où il dépasse un peu cette espèce de retenue qu'il a eu dans les chapitres précédents, qui est contre son successeur, Jean-Claude Bavageau, qu'il a
dans un premier temps adoubé,
qu'il avait soutenu, et puis avec qui effectivement les rapports se tendent très rapidement, et donc on a de la crise au sein de FO jusqu'à l'éviction de Bavageau à la suite d'une affaire révélée par le Canard enchaîné. Et puis après, il nous donne un peu sa vision vision du monde. Alors, il se définit comme un social-démocrate réformiste, aussi bien hostile aux communistes qu'à la droite, déçu par François Hollande. Et donc, c'est un témoignage que j'ai trouvé humainement assez intéressant, assez humble, et d'une certaine façon, qui mérite d'être lu avec...
Mais est-ce qu'il nous raconte les coulisses? Est-ce qu'on apprend des,
infos? Il y a quelques anecdotes, mais il n'y a pas vraiment de révélation. Ah, ce que nous raconte, on le sait déjà.
D'accord. Christian Chavagneux.
Et c'est pour ça que j'ai été globalement déçu par le livre, en fait. C'est que j'ai bien aimé le tout début, où il parle de lui. J'ai bien aimé la toute fin, où il donne ses convictions. Mais l'essentiel du livre, en gros, c'est la période 95-2020. Il a été près de Marc Blondel. Puis, il a été lui-même secrétaire général de FO. Et il ne fait que nous raconter ces combats sociaux sans nous les expliquer, sans nous dire là le gouvernement fait ça à ce moment-là parce que, et nous on a essayé, alors là il fallait que je m'allie avec le syndicat, avec un autre syndicat, non il fallait pas que je m'allie, là j'ai fait ce choix. Il nous explique rien, il ne fait que raconter. Du coup on est un peu déçu parce que rien que un simple suivi de l'actualité, je vous parle même pas de regarder BFM Business ou lire Alternative Économique tous les jours, mais rien qu'un simple suivi de l'actualité, vous connaissez déjà tout ça. Alors on a dû lui dire, Jean-Claude Mailly, il faut des petites anecdotes. T'as quand même rencontré des présidents de la République, des premiers ministres.
Des tas de réunions où on aurait aimé être des petites souris.
Eh ben il raconte rien. Alors peut-être c'est ce qu'il est, c'est une forme de timidité, mais il nous raconte pas grand-chose. Mais il nous dit Nicolas Sarkozy au début était très énergique. François Hollande il a trahi la gauche. Emmanuel Macron décide tout seul. Oui, d'accord, mais tout ça, on le sait, c'est ça, ces petites anecdotes. Donc, j'ai été globalement déçu par le contenu. Par contre, le début, où il raconte son destin personnel, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Jean-Marc l'a dit, fils et petit-fils d'ouvriers et de militants syndicaux. Il nous rappelle les débuts de FO après la guerre, financé par la FLCIO, le syndicat américain. Il nous dit, il assume le côté auberge espagnole. On se moque toujours de FO en disant c'est d'auberge espagnole. Il dit oui, il y a des trotskistes, il y a des anarchistes, il y a des réformistes. Voilà, c'est notre syndicat, c'est comme ça qu'on fait. Et à la fin du livre, avec tout, parce que Jean-Marc l'a dit, c'est un militant syndical de fraîche date, de ses 27-28 ans, et bien à la fin il nous dit, après toute cette expérience, quelles sont mes convictions ? Il a fait une licence des sciences économiques, c'est intéressant aussi. Il nous dit l'économie, c'est pas une science pure, l'économie, il faut mélanger ça avec le social, la politique, l'histoire, il faut comprendre comme ça l'économie. Sur le balancier, il nous dit, depuis les années 80, on sent que c'est plutôt les idées libérales qui ont dominé. Est-ce qu'il y a un petit retour de balancier aujourd'hui, avant Biden ? Est-ce qu'il y avait déjà... Il dit, oui, je pense qu'il y a un retour de balancier, les idées libérales vont être de moins en moins dominantes. Il veut un système fiscal plus progressif, il veut une Europe, bien évidemment, plus sociale, il aimerait bien que les critères ESG soient plus présents dans la gouvernance des entreprises. Voilà, il nous livre à la fin du livre ses petites envies, je dirais, mais globalement, ça reste décevant. Et je pense que peut-être... C'est parce que c'est quelqu'un de timide, en fait, et qu'il n'ose pas se livrer. Mais c'est dommage, un livre de témoignage, on aurait aimé qu'il se livre beaucoup plus. Bon.
Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de voyager dans le temps, et on va vous raconter la formidable histoire des couleurs. C'est avec Frédéric Simotel.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Alors Frédéric, aujourd'hui, vous nous racontez la grande histoire des couleurs.
Oui, c'est assez inhabituel hein, comme histoire, et pourtant, alors je suis tombé sur ce livre par hasard, je vous le raconterai un peu comment. Après, il s'appelle Full Spectrum, alors c'est un livre en anglais d'un auteur qui s'appelle Adam Rogers, c'est un journaliste chez Wired, hein, une des revues les plus connues dans le monde, revue américaine dans le monde de la technologie. Un journaliste qui a démarré par écrire, et il a commencé par écrire sur dans les revues scientifiques du MIT, donc il a travaillé pour Newsweek, enfin voilà, il a un peu tout fait, il a même fait un best-seller qui s'appelle Proof the Science of Booze, voilà, qui avait été un des best-sellers aux États-Unis, et on l'y considérait comme l'un des meilleurs journalistes scientifiques. Et donc c'est aux éditions, pour être très précis, Houghton Mifflin, et il vient de sortir en mai 2021. Moi, je l'ai acheté en PDF, donc ça marche très bien. Et ça se lit assez facilement, parce qu'il y a toute une partie, c'est vraiment l'histoire des couleurs. Il nous fait un peu de façon globe-trotteur. Donc il démarre dans des grottes, où il nous raconte un peu comment les hommes de Cro-Magnon allaient dessiner avec du charbon de bois. Donc il a visité un atelier de peinture vieux de 100 000 ans dans les grottes de Bomblos en Afrique du Sud, où il a vu comment les gens ont travaillé sur les couleurs, voilà, faire un peu plus rouge, un peu plus de vert. Il est allé voir aussi la découverte de Newton sur la façon dont il avait trouvé le principe de réfraction de la lumière. Voilà, il a vraiment regardé tout ça. Ceux qui ont un penchant scientifique, il a aussi travaillé sur le dioxyde dioxyde de titane. Il est allé voir des scientifiques qui ont travaillé dessus. Le dioxyde de titane, c'est le pigment le plus blanc sur Terre. Donc voilà, il est parti de là. Et donc, il raconte toute cette histoire. Et puis, évidemment, il y a un moment où on arrive à notre univers du numérique.
Alors, notre univers numérique. Mais alors, sauf que vous avez découvert ce livre. Parce qu'évidemment, vous faites des chroniques, Frédéric, sur la technologie, sur BFM TV et BFM Business, évidemment. Et c'est là que vous avez découvert, au départ, ce livre. Parce que c'est Pixar qui s'intéresse finalement à cette histoire des couleurs.
Oui, exactement. Ils sont allés très loin, Pixar. Ils travaillent avec des neurologues, des scientifiques sur ces couleurs. Vous n'allez plus regarder les dessins animés de la même façon. Et justement, je faisais une chronique sur comment, parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les films sur Netflix, sur toutes les plateformes, comment on va faire revenir les gens au cinéma. Alors, il y a la 4D, on va recevoir des souffles,
on va secouer votre siège, on va vous arroser quand il y a de l'eau.
Et puis, il y a autre chose.
On va vous envoyer des odeurs.
Voilà, on a essayé la 3D, il y a davantage d'hologrammes. Et puis, il y a aussi des choses sur la couleur. Et Pixar est vraiment en train de travailler sur la couleur. D'habitude, un film de cinéma, c'est sur trois couleurs. Le rouge, le vert, le bleu, avec le projecteur. Et eux, ils travaillent sur des projecteurs qui vont aller chercher six couleurs primaires. Dedans, ils vont faire des nuances. Ils vont travailler sur ce qu'ils appellent la gamme dynamique, c'est-à-dire la profondeur avec les ombres et tout ça. Et tout ça, pour nous faire vivre une expérience encore plus forte. Et dans les films que nous prépare Pixar, c'est vraiment, s'il y a un incendie là sur l'écran, eh bien nous, on sentira un sentiment de chaleur, quoi. On ressentira ça. Ils sont vraiment en train de travailler tout ça. Et ils vont tellement loin, parce qu'ils travaillent avec des neurologues sur ces... Alors, ils nous expliquent tout ça dans ce livre. Ils vont tellement loin qu'ils expliquent que dans les nuances de couleurs, ils réussissent à imprégner des images dans notre cerveau qui n'ont même pas été projetées à l'écran. C'est pas le côté subliminal, parce que subliminal, on glissait une image qu'on ne voyait pas et qui était dans l'écran et qui s'inscrivait quand même dans le cerveau. Là, avec ces couleurs, ils jouent tellement sur notre cerveau cherche à adapter toutes ces couleurs, et il y a tout d'un coup des images, ils vont dire, tiens, là, ça doit se passer comme ça, et alors que l'image ne sera pas passée. Mais ça va nous rendre le film encore plus dynamique. Et donc, il explique tout ça, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce livre-là. On a de tout, on a de l'histoire, les grottes des Cro-Magnons, là, et puis on termine par les fichiers numériques et la synthèse des couleurs. Et c'est vraiment intéressant.
Et donc, on comprend pourquoi, on sera content de retourner au cinéma. Il faut recréer une expérience exceptionnelle par rapport, finalement, aux télés extraordinaires que les gens ont chez eux. Merci beaucoup.
Full Spectrum, je vous le conseille. Et vraiment, très sincèrement, en anglais, il est facile à lire.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel. Et on va voyager aussi, non plus au pays des couleurs, mais dans le monde, avec les études que va nous présenter, comme chaque semaine, notre globetrotter, Benaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Alors on démarre avec la Chine et surtout Huawei. Et là, vous allez nous expliquer quelle est la stratégie de Huawei dans le monde pour conquérir le cloud.
Oui, implication économique et stratégique. C'est comme si plus les États-Unis mettaient en garde le monde entier contre l'équipementier télécom chinois, plus la clientèle s'étoffait. Le CSIS, qui est le Centre d'études internationales et stratégiques, l'un des cercles de réflexion les plus influents à Washington, a identifié 70 accords dans 41 pays entre ce groupe et des gouvernements, des entreprises publiques, contrat passé entre 2006 et le mois dernier. On relève une accélération du nombre de commandes, vraiment une accélération depuis 2018, et dont plusieurs annonces très importantes l'an dernier. Un tableau Excel joint à la version numérique se révèle particulièrement instructif à cet égard, contrat par contrat. Aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine, qu'en Asie, on passe de plus en plus commandes à Huawei pour son infrastructure cloud, pour ses services d'administration électronique, c'est-à-dire l'automatisation des fonctions administratives, l'attribution des licences, les dossiers juridiques, les dossiers de santé, les appels d'offres. 77% de ces contrats sont passés dans des États dont le régime est qualifié de non libre ou partiellement libre. Mais autre aspect, 72% des commandes proviennent de pays largement développés à revenus intermédiaires, comme la Malaisie ou bien le Mexique, qui pour rappel est membre de l'OCDE. D'après Jonathan Hillman et ses co-auteurs, Huawei se construit de la sorte une position stratégique qui pourrait fournir à Pékin de précieux renseignements, voire un effet de levier coercitif. Le CSIS avance différents cas de lacunes en matière de secret des données, dont un très instructif aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, voire d'espionnage présumé, comme au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est Huawei qui a fourni en 2012 les matériels et configuré les serveurs. Cela n'a pas empêché l'UA de renouveler son partenariat il y a 2 ans. Huawei qui réfute les allégations distilles du CSIS.
Et le monde entier n'a pas les pudeurs des États-Unis ou de l'Europe vis-à-vis de Huawei. L'Afrique devient numérique, Ben Aouda. On peut penser que c'est une bonne nouvelle.
Excellente même. L'auteur est une ancienne ministre des Finances du Cap-Vert. Elle conseille actuellement pour l'Afrique le secrétaire général des Nations Unies. C'est une publication spécialisée du Fonds monétaire international. Christina Duarte explique que malgré tous les dégâts économiques et sociaux que provoque la pandémie actuelle, le paradoxe est que cette crise est en train d'offrir l'opportunité aux pays africains de faire leur révolution numérique. Terme galvaudé, mais qui vaut dans cette étude. Elle souligne surtout à quel point l'adoption du digital en Afrique s'est opérée sans aucune aide publique, mais par le biais de start-up, de pépinières privées. Les illustrations sont très nombreuses. Au Kenya, par exemple, Fab Lab a créé Msafari, qui est une application de traçage des contacts qui peut suivre la propagation des infections, que ce soit le Covid ou une autre maladie. Il y a actuellement en Afrique plus de 600 de ces plateformes technologiques, des lieux conçus pour soutenir les entreprises qui démarrent. 3 reçoivent même une reconnaissance de dimension mondiale, à Nairobi au Kenya, au Cap en Afrique du Sud et à Lagos au Nigeria. Mais l'auteur met en garde contre l'illusion que procure ce foisonnement d'initiatives. Elle explique qu'à moins d'une prise de conscience politique continentale, ce progrès sera cantonné à ceux qui ont accès seulement à l'électricité et aux services de télécommunication, c'est-à-dire une minorité, bien entendu. C'est donc d'abord une question d'infrastructure sur laquelle peut s'épanouir l'entrepreneuriat numérique privé.
Ouais. L'électrification reste un enjeu majeur en Afrique. Et on termine avec une comparaison, Ben Aouda, au niveau européen, du coût du cancer.
Oui, un coût médical. C'est une équipe de chercheurs qui a travaillé sur ce dossier entre l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France et le Royaume-Uni. Max Schluter et ses collègues sont parvenus au constat que, pris ensemble, dans ces 5 États, le taux de croissance, de hausse annuelle du coût des médicaments par patient atteint d'un cancer est de 5,1%. Mais d'accord. Le coût global des médicaments, sur une période d'étude de 10 années, lui, diminue de 1,4%. Alors, très instructif, le traitement du cancer est quand même au deuxième plus faible niveau de dépenses de santé, 4,8%. Parmi les principales maladies chroniques abordées, c'est cardiovasculaire, diabète, neurologique et mental. Ce n'est pas le cancer qui coûte le plus cher, loin de là. Donc le poids relatif du traitement du cancer ne représente en fait en Europe occidentale qu'une faible, voire très faible proportion de l'effort financier collectif consenti en matière de santé. Les coûts directs annuels atteignent 58 milliards d'euros dans les 5 pays réunis. C'est en Allemagne que les montants sont de loin les plus élevés, 21 milliards d'euros. Soit 60% de plus que ce qui concerne la France. Mais les coûts par patient traité sont à peu près similaires. On est à 120 euros près. La proportion est du double de celle du Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Et une série de graphiques permettent d'affiner davantage encore l'analyse. La dépense globale en France par patient atteint du cancer à partir de 2013 est devenue un peu inférieure qu'en Allemagne, alors qu'elle apparaissait significativement plus élevée qu'en 2017. Donc il y a une courbe d'économie qui se trace. Mais lorsqu'il est question du coût des seuls médicaments, la France règle une facture annuelle bien plus élevée que l'ensemble des autres pays, autour de 2000 euros annuels, alors que c'est 1700 en Allemagne, 1200 en Italie. Pourquoi ? Comment ? Ce n'est pas encore l'objet de cette étude.
Non, mais c'est vraiment intéressant de voir le coût global, compte tenu des différences peut-être de traitement ou de stratégie de lutte contre le cancer entre pays. Et ben c'était passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Alors j'ai choisi un livre qui s'appelle « Peut-on consommer mieux ?» de Benoît Elbrun, qui est un professeur de marketing, un de mes collègues, donc ça peut paraître...
On a l'habitude d'avoir
Attendez, parce que professeur de marketing qui dit « Peut-on consommer mieux ?» ça veut dire « Est-ce qu'on peut vous faire dépenser autant, même si vous voulez acheter moins ?» C'est ça ?
Mais pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout. Il explique que justement, d'abord il y a toute une partie qui est une partie factuelle, où il décrit ce qu'est la consommation. Il vous vous apprend combien vous consommez de litres d'eau par an, combien vous consommez de kilos de viande et des choses comme ça. Et puis ensuite, comment va évoluer la consommation? Il dit, en fait, on va vers une société qui va passer de la valeur ajoutée à la valeur étendue, qui est une notion un peu plus large de ce qu'est la valeur. Enfin, c'est assez original, c'est plein d'informations, c'est bien écrit, et c'est pas parce que c'est un de mes collègues que je le défends, mais c'est parce que c'est un livre que je trouve bien écrit.
Donc, un Jean-Marc Daniel plutôt force ouvrière, plutôt écolo, aujourd'hui, profitez-en, parce que je suis pas sûr que...
Mais
anti-communiste toujours. Je suis pas sûr que vous le verrez comme ça toutes les semaines. Christian Chavagneux, votre dernier livre pour aujourd'hui.
Moi, c'est un livre qui essaie d'expliquer pourquoi aux États-Unis, un petit peu ailleurs dans le monde, on est passé en gros du standard du CDI à des travailleurs plutôt précaires. Et donc c'est Louis Hyman, un américain. Qui a écrit ce livre et nous dit en fait qu'il y a deux grandes sociétés, deux grandes entreprises qui ont contribué à ça. C'est Manpower par le bas, l'idée que le salarié peut être pris et jeté quand on en a pas besoin. Et puis pour les cadres, plutôt McKinsey qui a réussi à faire croire partout dans le monde que il y avait toujours un problème dans une entreprise et qu'il fallait toujours aller chercher quelqu'un à l'extérieur et que cette personne extérieure toujours allait vous dire plus c'est flexible et plus travail flexible, mieux c'est. Donc ces deux sociétés, le livre est d'autant plus intéressant qu'on est dans l'histoire, dans les débuts de McKinsey et dans les débuts de Manpower. Bon, quand on arrive à la période contemporaine, c'est un peu plus convenu, mais c'est un petit livre qui, au moins pour la période historique, est très intéressant.
Absolument, il ne m'avait pas échappé. Eh bien écoutez, moi j'ai été séduit par le livre de Guillaume Évin, alors qui s'appelle Petites histoires de domination sportive. Alors, de quoi s'agit-il? Eh ben, il s'interroge, Guillaume Évin, pourquoi est-ce que les Russes excellent toujours en natation artistique? Pourquoi les Hongrois sont-ils les champions incontestés du water polo? Pourquoi l'Allemagne gagne toutes les médailles d'or en luge? Pourquoi la Chine est toujours la championne du plongeon ou du tennis de table? Et il nous dit, voilà, est-ce que c'est des histoires de culture? Non, il nous montre que dans certains pays, par exemple, pourquoi l'Égypte est devenue un des grands pays du squash? Eh ben voilà, parce que il n'y a pas que des cultures, il y a aussi comment dans chaque pays on a décidé de mettre en place des politiques sportives pour aller chercher de l'excellence dans certains secteurs. C'est à la fois du sport, c'est à la fois de l'économie, c'est à la fois du sociétal. Moi, je me suis régalé. Ça s'appelle Petites histoires de domination sportive par Guillaume Évin, qui est un journaliste. C'est aux éditions du Rocher. Et puis, le handball pour les Français, bien évidemment. Puis un peu le foot aussi. Voilà. Et ben, vous lirez tout ça dans ce petit livre. C'est la fin de cette librairie de l'écho. À la semaine prochaine, et d'ici là, bien sûr, bonne lecture !